Émission spéciale de la Fabrique de l'Histoire en ce vendredi. Très régulièrement, en effet, la Fabrique de l'Histoire organise avec le château de Versailles des rencontres dans la salle du jeu de paume qui fut le lieu du fameux serment. Des rencontres avec des hommes et des femmes politiques qui dressent pour nous leur imaginaire historique. Quels ont été les événements, les personnages qui nourrissent leur vision de la politique. Ce matin, après Vincent Peillon, Jean-Louis Debray, Marisol Touraine, François Bayrou et Alain Juppé, nous recevons la secrétaire générale de la francophonie, Michaël Jean.
Pour cette nouvelle édition des rencontres du jeu de paume à Versailles, organisée conjointement par France Culture et par le château de Versailles, nous avons le grand plaisir de recevoir une invitée politique qui, nous l'espérons, évoquera les multiples histoires dont elle se sent l'héritière. L'histoire du Canada, dont elle fut gouverneur général, mais aussi l'histoire d'Haïti, où elle est née. Michaël Jean, secrétaire général de la francophonie, puisque c'est votre titre, depuis un peu plus d'un an maintenant.
J'ai été élue le 30 novembre 2014 et j'ai pris fonction le 5 janvier 2015.
Vous êtes donc notre invité depuis cette salle du jeu de paume. Et comme d'habitude, je vais vous poser la question sur cet endroit. Mais cet endroit, pas simplement pour son architecture, pour ce qui est inscrit sur les murs, pour les bustes des révolutionnaires qui nous entourent, celui de Bailly qui tend le bras en jurant, ainsi que tous les autres, effectivement, de ne pas se séparer avant que cette révolution soit accomplie d'une certaine façon. Pas simplement pour cette salle elle-même, son architecture, mais également pour ce qu'elle représente dans l'histoire de notre pays, mais peut-être encore plus dans l'histoire des autres pays, Michaël Jean.
Alors, je dirais que d'ici surgit une parole, une conception du monde, un désir qui auront des répercussions bien au-delà de la France, qui traverseront l'océan. D'ici vient cette aspiration à la liberté, à l'autonomie. Et qui dit autonomie dit émancipation, liberté de penser, de faire, de décider, de questionner. Vient aussi une idée, un désir d'égalité et de fraternité. Surgissent ici des mots essentiels, des valeurs essentielles, liberté, égalité, fraternité. Et de là d'où je viens, d'Haïti où je suis née, et qui à l'époque était Saint-Domingue, je dirais des colonies françaises de cette partie du monde, des Antilles, c'est la plus florissante.
Celle la qui, perle des Antilles.
La perle des Antilles, mais en plus celle qui rapporte le plus à la France. Parce que de là viennent des productions essentielles, grandes plantations, de sucre, de café, l'indigo, le coton. Donc, les richesses qui feront aussi Versailles
bien
sont
sûr
puisées de là. Alors, pour mes ancêtres, des plantations, ces femmes, ces hommes, ce qui se produit ici est une source d'espérance. Liberté, égalité, fraternité pour nous aussi. Pour nous aussi, les nègres, qui n'avons pas été invités au banquet révolutionnaire ni à manger de ce pain-là, mais d'où parle aussi de ce lieu un homme qui croit à la nécessité de reconnaître cette finalité humaine qui décide que dès lors, de par son appartenance et sa condition humaine, il faut absolument reconnaître cette pleine intégrité, cette pleine dignité à l'être humain. L'abbé Grégoire, qui d'ici parle au nom de l'émancipation des Juifs, mais aussi de l'abolition de l'esclavage. Donc, ces mots, je dirais que mes ancêtres les ont reconnus dans leur chair et se sont dit pour nous aussi. Voilà, et c'est le début d'un combat.
Mais néanmoins, dans cette salle, ici, en juin 1789, d'une certaine façon, on peut dire qu'il n'y a pas une seule opinion sur cette question de l'abolition de l'esclavage. On sait très bien que certains de ceux qui se réunissent ici, ils sont pour la liberté, pour l'égalité, pour la fraternité, pour ceux qui sont propriétaires, par exemple, et propriétaires d'esclaves également, mais pas simplement, pas pour la totalité de la population humaine, et qu'il faudra un combat à l'intérieur même de la Révolution pour parvenir à cette abolition de l'esclavage, Michael Jean.
Tout à fait, mais je crois que de toutes ces voix réunies, dans aussi ce bouillonnement et qui n'est pas sans contradiction, sans affrontement, il a suffi qu'une voix, que quelques voix surgissent pour faire naître aussi l'espoir. C'est-à-dire faire naître l'espoir pour tant d'hommes, de femmes qui pendant des générations ont été dépossédés de tout, ont été dépossédés de leur nom, de leur lieu, de leur langue, de leur dignité d'êtres humains. Et qui trouvent là la possibilité de se faire entendre. Et qui trouvent là légitimité également, reconnaissance, dans ces quelques voix qui s'élèvent pour dire tous ensemble, tous égaux, tous libres et dans cette fraternité. Alors, vient et d'Haïti l'étincelle qui embrasera toutes les Amériques pour un combat à mener de toutes nos forces pour l'abolition de l'esclavage. Pour le fait de proclamer le droit d'être libre, et d'Haïti vient ce cri « liberté ou mourir ». Et c'est vraiment ça. Alors, se passe cette chose extraordinaire. Haïti va jusqu'au bout de ce combat, jusqu'à la proclamation de la première République noire dans l'histoire, la République d'Haïti. Qui provoque une espèce de coup de tonnerre terrible. Ces grands propriétaires sont chassés, emmènent avec eux quelques esclaves, cherchent à se réfugier ailleurs et iront jusqu'à Napoléon Bonaparte pour dire « Écoutez, c'est impossible ce qui se passe là. C'est la fin de l'émancipation et commerciale pour la France. C'est un lieu de richesse dont nous voilà d'un seul coup... enfin, privé. Et Napoléon Bonaparte essaie de reprendre et de rétablir la colonie et de rétablir Saint-Domingue, envoie des bateaux à bord desquels se trouvent des Polonais. Il avait conquis la Pologne. Mmh. Et voilà-t-il que les Polonais décident de se joindre aux révolutionnaires haïtiens. Mutinerie totale. Et on assiste à une mondialisation des solidarités.
Mais ça veut dire aussi que quand on plante le germe de la liberté, on ne sait jamais ce qui va pousser ensuite au bout du compte, Michael Jean. C'est-à-dire qu'au bout du compte, si on veut le contrôler, ce germe de la liberté, eh bien, on n'y parvient pas.
Dans ce cas-ci, la chose est impossible à contrôler. La pulsion est trop forte. La Révolution française elle-même montre que cela est possible, qu'il est possible de faire reculer l'impossible, que l'impensable est réalisable. Et je dirais que ce que produit cette petite république est quelque chose d'extraordinaire, parce que vient se réfugier en Haïti un personnage très important, Simon Bolivar, qui veut l'indépendance des pays des Amériques du joug impérial européen.
Espagnol
notamment, et portugais également. Il vient voir le premier président de la République d'Haïti, Alexandre Pétion, qui lui promet de financer toutes ses expéditions. Pétion dit « Je financerai tes expéditions, mais à une condition. C'est que partout où tu passeras, partout où tu engageras ce combat, tu libéreras tous les esclaves. » Parce que sans cette condition, rien n'est possible. Il n'est pas possible de réinventer le monde si d'emblée, on n'accepte pas cette égalité, cette fraternité entre les hommes. Et ça est extraordinaire. Alors, ce qui
veut
dire que...
Ça a marché quelquefois, pas partout. Ça n'a pas marché à Cuba, parce qu'à Cuba, par exemple, on a maintenu l'esclavage encore un peu plus longtemps.
Ah oui, jusqu'à la fin du 19e. Ouais. Mais je dirais que là où ça fonctionne, déjà, c'est un autre monde qui surgit. C'est une autre vision du monde qui est en marche. Et les pays que nous connaissons aujourd'hui des Amériques latines n'existeraient pas sans cet apport qui a été déterminant d'Haïti et de ses maigres ressources. Et je dirais que de cette audace aussi est venue une condamnation qui a été terrible pour Haïti. C'est-à-dire, le premier embargo international que l'on connaisse a été infligé à Haïti parce qu'il ne fallait pas que ce rêve réussisse. C'est à remettre en question tout un système économique.
Et la dette également, la dette qu'Haïti a été obligée de payer pour pouvoir, d'une certaine façon, devenir véritablement indépendante et qu'elle paye encore.
Et chose incroyable, on appelle cette dette une réparation. Imaginez. Une réparation, pourquoi ? Pour une aspiration à la liberté. Pour la conquête de la liberté, il fallait payer et réparer les dommages subis par ces grands propriétaires terriens. Alors, je vous dirais que je ne sais pas jusqu'où les Français mesurent la portée de ce qui s'est passé ici, pour le reste du monde. Et pour moi, être dans ce lieu, être à proximité de Versailles, c'est aussi très troublant. Mais très troublant au sens où c'est un moment de contemplation de l'histoire qui est nécessaire. Louis XIII introduit et autorise l'esclavage dans les colonies des Antilles. Louis XIV promulgue le Code noir, qui a été terrible. C'était vraiment toutes les sentences et les violences faites aux Noirs fugitifs, aux esclaves fugitifs, et qui étaient des châtiments corporels atroces. On pouvait vous trancher les oreilles, vous mutiler les membres. D'ailleurs, il y a une petite chanson en Haïti qui dit « Nègre noir, tes oreilles enragées ». Donc, le noir aux petites oreilles est un enragé, quelqu'un plein de rage. On l'a puni, on lui a tranché les oreilles parce qu'il a voulu fuir. Donc, il y a de tout ça. Ensuite, Louis XV va durcir encore davantage le code noir.
Et le plus élevé,
sommes ici ensemble. Et c'est ça qui est fabuleux. C'est ça qui est fabuleux. Parfois, on a l'impression que l'histoire piétine, mais en même temps, il faut mesurer tout ce que nous avons accompli et ce que ce lieu même a produit. Les paroles qui se sont élevées ici ont produit énormément, qui fait que l'on peut aujourd'hui être ici en être égaux, en droit et en aspiration et chargé de rêves que nous pouvons porter ensemble.
Et cette histoire, puisque vous avez dû quitter avec votre famille Haïti, je crois à l'âge de 11 ans, c'est cela ?
Oui.
En 1968, Michael Jean, vous l'avez apprise à Haïti. Votre père, je crois, était directeur d'école.
Oui.
Il a été très sévèrement tabassé par les tontons Macoutes,
oui,
parce qu'il
torturé,
avait
ouais.
torturé par les tontons Macoutes, donc du Valier. Et c'est ce qui lui a valu donc cet exil au Canada, où vous avez grandi. Vous l'avez apprise auprès de lui, cette histoire. Vous l'avez apprise à l'école, vous l'avez apprise depuis. Comment s'est créé ce feuilletage d'histoire que vous pouvez raconter aujourd'hui, Michael Jean ?
Nous sommes pétris d'histoire. C'est-à-dire que pour nous, la mémoire est essentielle. Savoir d'où nous venons, savoir ce que nous avons accompli aussi dans la marge de l'histoire. Savoir comment nous avons réussi à nous redresser et à renaître à nous-mêmes après 400 ans de déni de tout. Déni de liberté, de dépossession de tout ce que nous sommes. Et ça a vraiment été une reconstruction. En Haïti, on dit aussi, en langue créole, nous t'aimes un alphabet, mais nous pas bête, non. Un alphabet peut-être, même pas bête. Il y a cette tradition orale qui fait que l'on se transmet cette histoire. Les tout-petits, déjà, vous parleront de ces héros de la Révolution, de ce qui a été. Et pour nous, la mémoire est un élément, je dirais, qui nous construit. C'est un élément essentiel. Et même dans les épreuves, j'ai entendu si souvent parler de la résilience du peuple haïtien, mais il y a toujours cette pulsion de vie qui est là et qui fait que d'une épreuve à l'autre, on se relève, on se redresse parce que nous avons su renaître à nous-mêmes. Et même si parfois, je dirais, ce rêve est trahi par des haïtiens même, cette nation est souvent trahie par les siens.
Par ses propres
élites, parfois. Voilà. Il reste que cette espèce de détermination indomptable chez l'haïtien pour renaître à tout, toujours se relever, toujours se redresser, cette grande fierté, cette identité très ancrée, vient justement du fait de la mémoire, que l'on se souvienne toujours et que l'on avance. Pas dans un esprit ni de revanche, mais toujours dans un esprit bâtisseur. Vous voyez, mais le simple fait, par exemple, pour tous ces peuples, et notamment Haïti, d'avoir pris je dirais, possession de cette langue française. Nous la sommes appropriée, nous la faisons nôtre. C'est maintenant une valeur sublime et importante que nous avons en partage avec vous ici en France.
Et elle nous permet, fournit parmi les plus grands écrivains langue française.
Elle nous permet d'aller à la rencontre les uns des autres. Elle nous permet d'exister ensemble et de nous projeter aussi ensemble. Et je trouve formidable que parfois l'on prenne le temps de considérer ce retour sur l'histoire et ce retour de l'histoire et de se dire, tiens, voilà, nous avons quand même réalisé beaucoup de choses. Donc face aux épreuves d'aujourd'hui, il faut aussi se souvenir de là d'où nous venons et de ce que nous avons pu réaliser.
Alors, vous arrivez au Canada à l'âge de 11 ans, je l'ai dit, Michaël Jean, et vous allez découvrir un tout nouveau pays que vous ne connaissez pas, qui ne correspond pas peut-être à l'idée que vous vous faites de ce qu'est un pays, de vos attentes. Vous allez le découvrir, je crois que vous allez l'aimer assez rapidement, d'après ce que j'ai cru comprendre, et vous allez devoir aussi apprendre sa propre histoire à ce pays, le Québec, le Canada, les conflits entre Français et Anglais, les débats qu'il a pu y avoir sur ce territoire. Et vous tombez dans cette fin d'année 60, tout début d'année 70, dans un moment très particulier de l'histoire du Canada, puisque c'est le moment où le Front de libération du Québec, le FLQ, va être à son plus fort en 1970, va provoquer des enlèvements, faire ce qu'on appelle du terrorisme, etc. Et dans un rapport très particulier à votre île de naissance, puisque on sait très bien combien les esprits caraïbes, les écritures caraïbes, on nourrit aussi, chez les Québécois qui voulaient secouer la tutelle anglophone, un désir de liberté. Comment ça se passe-t-il pendant vos années d'adolescence, de jeune femme, dans ce Québec qui est très secoué par cette question donc de la souveraineté québécoise ?
Ce que vous évoquez là n'est pas sans évoquer aussi des situations que vivent quantité d'hommes et de femmes aujourd'hui même. C'est-à-dire devoir, là encore, se refaire une vie ailleurs, être contraint de fuir son lieu d'appartenance, son lieu d'origine, et arriver ailleurs, dans un ailleurs qu'il nous faut en quelque sorte embrasser et qui doit d'abord nous recevoir. Ce qui a été déterminant, je crois, à mon arrivée au Canada, c'est comment nous avons été reçus. Et c'est ça qui fait toute la différence.
Et comment avez-vous été reçus ?
C'est-à-dire que vous arrivez ne sachant pas très bien où vous êtes, en perte de repères, mais avec beaucoup aussi dans vos bagages. Vous arrivez sans rien, vous devez vous reconstruire. Matériellement, vous êtes dans un grand dénuement, mais en même temps, vous avez beaucoup à offrir. Vous avez beaucoup à offrir de qui vous êtes, de votre expérience, de cette histoire et même de cette épreuve que vous avez à surmonter. Et ce que nous avons trouvé au Canada, ce sont des gens à l'écoute. Toujours une main tendue. C'est-à-dire que je dirais que l'intégration ne s'est pas faite uniquement par des politiques mise en place par l'État,
mais
elle s'est faite aussi par les personnes, par ces citoyennes et ces citoyens qui ont envie de vous dire « vous n'êtes pas seul ». Et je me souviens que chaque fois que nous avons eu à surmonter des épreuves, il y avait toujours quantité de gens dans le quartier autour de nous, dans notre ville, au Québec, où nous avons en quelque sorte étendu nos racines comme au temps de rhizome, pour nous dire « bon, voilà, vous êtes une parmi nous, et nous sommes là ensemble et nous ne sommes pas indifférents. » Bien sûr, aucune société du monde n'est à l'abri du racisme. Nous avons eu parfois aussi quelques difficultés, quelques revers, quelques regards un peu, parfois, et quelques attitudes inquiétantes qui en quelque sorte n'étaient pas dans l'ouverture que l'on pouvait souhaiter. Mais même là, dans ces épreuves, nous n'étions jamais seuls. C'est-à-dire qu'il y avait toujours quantité de gens pour dire cela n'est pas acceptable. Parce que bon, c'est une terre d'accueil, c'est une terre où tant de gens sont venus d'ailleurs et où l'on peut justement participer, je dirais, à l'édification de cette société-là, et très vite en citoyen et citoyenne à part entière. Ça a fait la différence. Alors oui, j'arrive dans ce moment de grand, je dirais,
bouleversement.
C'est la révolution tranquille. On dit bouleversement et c'est pourtant une révolution tranquille.
Oui, oui.
Parce que bon, c'est un moment de, où l'on pense à la laïcité, on pense à laïciser les écoles. Mon père enseigne. On est heureux d'accueillir des francophones venus d'ailleurs pour justement faire toute cette réforme de l'éducation qui autrefois était entièrement confiée au monde clérical. Donc c'était l'Église qui portait la responsabilité de l'éducation. Et là maintenant, on veut laïciser le système. Et c'est un moment aussi de grand questionnement. Et bien sûr, oui, il y a ce lien entre francophones des Amériques, entre les écrivains, les intellectuels de caraïbéens et les intellectuels et les écrivains, les créateurs du Québec. Et nous participons aussi à tout ce bouillonnement en citoyens à part entière de penser une société en dehors du cadre, qui était un cadre très rigoureux, très religieux, très traditionnel et dont les Québécois voulaient en quelque sorte se sortir.
C'est là où vous découvrez Aimé Césaire, par exemple? C'est à ce moment-là où vous l'avez déjà découvert auparavant?
Non, en fait, Aimé Césaire, je dirais que dans cette soif de mémoire, de valeur, cette volonté aussi qu'ont les Haïtiens de rassembler leur histoire, je dirais que tous les écrits sont là et accompagnent cette prise de conscience profonde. Et Aimé Césaire est très inspiré par l'expérience haïtienne. Il est très à l'affût de ce qui s'est passé là.
Le roi Christophe. C'est-à-dire,
bon, la tragédie du roi Christophe donnera naissance à une œuvre capitale chez Césaire. Et il y a toujours présente chez Césaire l'expérience haïtienne. Et Césaire devient aussi, est aussi un écrivain phare pour les écrivains québécois.
Alors justement, je voulais y venir. C'est effectivement que c'est un personnage qui nourrit par son écriture cette volonté aussi d'indépendance, de se sortir. Oui. Alors c'est curieux parce que Césaire n'a jamais été un indépendantiste d'une certaine façon.
Jamais.
Il a préféré
Césaire a toujours pensé
la départementalisation.
Oui, mais l'émancipation.
Bien sûr.
La reconnaissance, je dirais, d'une histoire, d'un parcours, d'une expérience. Il est aussi l'un des pères de cette notion de négritude avec Léopold Sédar Senghor. Et les Québécois vont jusqu'à reconnaître même le concept de négritude avec, par exemple, cette notion de nègre blanc d'Amérique. Alors pourquoi? Parce que la négritude, dit Césaire, n'est ni question de race, de peau ou de couleur. C'est une question de condition.
Oui, c'est Jacques Brault qui écrit, je crois, « Nous, les seuls nègres aux certitudes blanches
oui, », voilà.
En 1965, voilà.
Écrivain québécois. Et les Québécois se reconnaissent dans ce désir d'émancipation, d'affirmation de ce qu'ils sont, d'affirmation d'une culture, d'affirmation d'une identité, et se reconnaissent tout à fait dans les textes de Césaire. Cela dit, là où ils ne se rencontrent pas, c'est sur la question de l'indépendance. Parce que si certains Québécois, et pas tous, hein, c'est un mouvement au cœur du Québec, il ne faut pas croire que tout le Québec est forcément indépendantiste, mais certains intellectuels indépendantistes, c'est le seul point de rupture qu'ils ont avec Césaire, c'est-à-dire qu'ils se reconnaissent dans cette pulsion, je dirais, d'affirmation et d'émancipation. Mais par contre, Césaire a toujours voulu garder ce lien avec la France. Il y a aussi une démarche. Il y a un parcours. Et la négritude est un temps, je dirais, de l'éveil, est un temps de l'affirmation, de l'émancipation, de dire être nègre est aussi une condition. Être nègre, c'est une expérience dont il faut se souvenir, dont il faut tenir compte. Et être nègre est aussi une pulsion. Vous savez que, par exemple, pour les Afro-Américains, nigger est un mot d'une insulte. C'est l'insulte suprême quand on dit nigger. Mais dans la révolution haïtienne et dans ce désir de renaître à soi-même, il y a un côté subversif. Et même dans le sens que l'on redonne au mot. C'est-à-dire, tu me nommais nègre pour m'humilier, pour m'annihiler, et bien à ce mot, je donnerai une noblesse.
C'est le retournement
désormais,
du stigmate.
Voilà, et désormais, nègre voudra dire homme. Par exemple, quand un Haïtien vous veut du bien, que vous soyez blanc ou hein, il vous dira nègre ça. ce nègre-là. Parce que c'est, ça veut dire qu'il vous confère, je veux dire, c'est toute la noblesse qu'il accorde à ce mot. C'est-à-dire, c'est détourner l'insulte et en faire quelque chose que l'on anoblit en disant, bon voilà, je suis nègre et fier et droit. je porte la tête haute. Tu as voulu m'insulter et me détruire dans ce mot. Eh bien, à ce mot, je donne un autre sens. C'est ça, se réinventer aussi, jusque dans le sens que l'on donne au mot.
Et c'est amusant parce que si vous allez voir, quand ça sortira d'ici quelques jours, le film de Roche Dizem, Chocolat, où Omar Sy joue le rôle du premier clown noir de l'histoire française, en l'occurrence, dans un contexte d'une société qui est très raciste, celui qui réveille, pourrait-on dire, une sorte de dimension politique chez ce clown qui trouve amusant de se faire botter les fesses par un clown blanc, c'est un Haïtien. Comme si, au bout du compte, quand il fallait éveiller la conscience noire à la fin du 19e siècle, eh bien, c'est un Haïtien qui pourrait le faire, Michaël Jean.
Je crois que Haïti a joué ce rôle important. Parfois, cette histoire me rattrape à des moments les plus inattendus. Un moment délicieux. Et lorsque je suis invitée à me rendre à la Smithsonian, qui est cette grande institution de la culture aux États-Unis et au cœur de Washington, et le directeur de la Smithsonian me reçoit et il me dit... Nous allons nous rencontrer dans cette pièce qui est très importante, elle est chargée d'histoire. Et je voudrais que vous preniez ce siège-là, asseyez-vous là, et pas un autre, mais celui-ci. Et je lui dis, mais pourquoi ? Il me dit, mais parce que dans ce siège prenait place Abraham Lincoln. Ah, je dis, bon, d'accord, j'en suis honorée, mais encore. Ah mais oui, mais c'est de là, il y a cette table qu'il recevait ses conseillers. Et un jour... L'un de ses conseillers vient le voir et lui dit « Monsieur le Président, vous êtes le père de notre nation. Vous êtes un fondateur. Mais il reste encore une chose que vous n'avez pas accomplie et que le père d'une autre nation a réalisée. » Et Lincoln de lui demander « Mais qui donc ? Qui est-ce ? » Il lui dit « Il s'appelle Toussaint Louverture. » Toussaint Louverture.
Ça lui dit
rien. Qu'a-t-il fait ? Alors, il a aboli l'esclavage et il a proclamé la première République noire de l'histoire. Il a aboli l'esclavage et ça, Monsieur le Président, vous ne l'avez pas encore fait. Et le directeur de la Smithsonian, il me raconte ça, il me dit, vous savez, c'est pour ça que nous serons toujours aux côtés d'Haïti. Parce que peu de gens le savent, mais la réflexion même d'Abraham Lincoln sur la nécessité d'abolir l'esclavage est venue de là.
Il n'était pas convaincu, Abraham Lincoln, au départ, de cette nécessité. Il pensait même, d'ailleurs, qu'il fallait peut-être exporter les Noirs hors des frontières des États-Unis pour régler la question noire.
Ce conseiller le met au défi. Et quand il me raconte ça, le directeur de la Smithsonian, il me dit, vous rendez compte ? Voilà aussi ce qu'Haïti a accompli. Haïti a pu loger cette idée et introduire le doute et même, peut-être, mettre Abraham Lincoln au défi.
Vous avez relevé un défi plus tard, après avoir fait des années de journalisme à la télévision, en particulier Michaël Jean au Canada, après avoir fait vos études, c'est d'être venant du Québec, gouverneur général du Canada. Je ne sais pas si c'est sous votre houlette que les Canadiens ont récupéré leur soldat inconnu, mais longtemps, le soldat inconnu, pour l'ensemble du Commonwealth, il était à Londres, ce soldat inconnu, parce que dans la Première Guerre mondiale, tous ces combattants combattaient sous l'uniforme britannique, sous l'uniforme du Royaume-Uni, et donc de l'Empire britannique, et d'une certaine façon, couvrir que quasiment un siècle après les événements de la guerre de 14, eh bien, certains pays redécouvrent leur propre histoire. Nous ne vivons pas toujours dans les mêmes rythmes mémoriels, par exemple, Michaël Jean.
Tout à fait. Et je pense que dès lors que le Canada rapatrie aussi sa constitution et que la citoyenneté canadienne est consacrée, le Canada est un pays souverain, il y a aussi cette nécessité de bien, se réapproprier son histoire, de se donner aussi un récit. Et dans ce récit, il y a également tous ces faits importants de l'histoire où le Canada a répondu et a été là. au nom de valeurs de liberté, hein, de liberté très importante. Et pour quantité de vétérans canadiens qui ont connu ces moments, pour tous ces soldats qui reposent encore en terre française, je suis venue ici, gouverneur général, en visite d'État, et j'ai vécu un moment extraordinaire où j'ai amené avec moi des vétérans amérindiens des Premières Nations. On n'avait jamais reconnu leur contribution, pas même au Canada. C'est-à-dire qu'ils avaient combattu, ils étaient soldats parmi les soldats au sein des forces canadiennes, mais jamais ils n'avaient obtenu la pleine reconnaissance de ce service à la nation. Et quand je suis revenue ici avec nombre d'entre eux et avec les plus jeunes qui s'étaient vraiment parés de leurs plus beaux costumes traditionnels et qui vraiment sur la plage du débarquement avaient voulu célébrer la vie pour rappeler la mémoire de ceux qui avaient péri là. C'était un moment extraordinaire, et de voir comment les Français, vous-même, vous les regardiez arriver dans ces costumes et tout, et jamais on n'avait soupçonné que ces premiers peuples des Amériques avaient aussi participé au débarquement et avaient été là, présents. Et il n'y avait aucun ressentiment, il n'y avait que de la fierté. Et alors que je discutais avec l'un de ces vétérans, je lui disais, alors, qu'est-ce qui a été le plus difficile ? Nous étions sur la plage de Juneau, hein, en Normandie. Je lui dis, alors, qu'est-ce qui a été le plus difficile ? C'est ce qui s'est passé là, sur cette plage. Il m'a dit, ça a été terrible, ça a été horrifiant. Mais le plus difficile, ça a été de rentrer ensuite au pays. Parce que tant que je combattais là, j'étais un parmi les autres. J'étais égal, j'étais un soldat comme les autres. J'étais Canadien. Et quand je suis rentrée, on n'a pas reconnu. On n'a pas reconnu, et je suis redevenue the damn Indian again. Hein, l'Indien maudit.
Je dis bien encore.
Donc ça, c'était... Donc pour moi, comme gouverneur général, ça a été très important aussi de faire reconnaître cette contribution importante. Et je pense que... Pourquoi est-ce que je l'ai fait ainsi ? Pourquoi j'ai autant insisté pour que nous vivions cela ? Que nous remontions le fil de la mémoire, c'est parce que cela me ramenait aussi à ma propre histoire. On a besoin d'être reconnu.
Mais c'est tout de même difficile dans un pays comme le Canada, puisqu'il y a deux sources de l'histoire, une source anglaise, une source
française, donc coloniale.
Et une source, donc, effectivement, de ces peuples autochtones qui étaient là avant l'arrivée de ces colonisateurs. Plus, on peut y ajouter le très grand nombre de Caribéens, on l'a déjà dit avec vous, Michaël Jean. Et donc, il y a de multiples histoires à raconter. Et la France se pose souvent des questions sur ce qu'on appelle le multiculturalisme, sur ce qu'on appelle, ce que vous appelez, je crois, au Canada, les apparentements raisonnables. Comment ça s'appelle exactement?
Les accommodements raisonnables.
Et sur cette nécessité de faire une place à chacun dans l'histoire, tout en reconnaissant que cette histoire est commune. Oui. Comment fait-on avec ces histoires multiples?
Moi, je pense
quand vous venez d'Haïti, que vous êtes vous-même du Québec, que vous arrivez à la tête de l'État canadien, que vous êtes francophone et qu'on vous accuse peut-être du côté des anglophones d'être trop francophone pour
non,
les anglophones.
Jamais, mais non, jamais.
Que parfois, il faut le reconnaître, certains Québécois auront des mots très durs sur votre présence à la tête de l'État, parce que vous êtes, pour certains des plus durs des indépendantistes, c'est une sorte de trahison que vous soyez à la tête d'un État qui considère comme un État colonial. Comment fait-on pour raconter cette histoire-là ?
Non, le Canada n'est pas un État colonial.
Non, mais certains le reconnaissent, certains le pensent comme ça.
Non, ils ne le pensent pas comme un État colonial. Je pense que, en toute justice, pour les Québécois qui souhaitent l'indépendance, il y a, oui, ce désir de proclamer l'État et le pays du Québec et d'en faire, bon, voilà. Mais cela dit, il n'y a pas de rapport colonial. Il y a une fédération. Et qui est portée par un grand rêve, c'est-à-dire que nous soyons tous ensemble sur ce territoire immense où nous pouvons aller du connu à l'inconnu à l'infini, porteurs de même idéal, que nous fassions corps ensemble, que nous fassions citoyenneté et nation ensemble, avec, je dirais aussi, une pleine reconnaissance de tout ce qui fait ce que nous sommes, c'est-à-dire à la fois ces premiers peuples, ces premiers peuples indigènes, autochtones, amérindiens, qui ont su, je dirais, partager avec les Européens venus, qui malheureusement les ont malmenés et ont conquis leurs terres et les ont retranchés dans des territoires que l'on appelle des réserves. Mais il y a un désir de faire corps.
Oui, mais c'est un pays où les gens se sont battus tout de même, anglais et français se sont battus sur terrain. Non, mais ce que je veux dire, c'est ça doit être, ça n'est pas si simple
en
au bout
temps,
du compte.
En même temps, écoutez, ce qui s'est réglé sur le dos de ceux qui vivaient au Canada, ce sont des rivalités coloniales, finalement, qui concernaient l'Angleterre et la France, et qui se passait loin. La bataille, on parle souvent de la bataille sur les plaines d'Abraham, elle a duré très peu de temps. Il y a eu, je pense, une situation qui a causé certaines blessures en raison, je dirais, d'un déséquilibre sur le plan, par exemple, économique et du pouvoir économique. Mais j'estime qu'au Québec, par exemple, on a réalisé énormément de choses. Le Québec connaît un rayonnement extraordinaire au sein de la fédération. C'est-à-dire le Québec a ses institutions, le Québec a son rayonnement dans le monde, et tout cela est possible aussi au sein de la fédération canadienne. Savez-vous que, par exemple, nous avons connu un moment dans l'histoire du Canada où le parti d'opposition officiel était un parti séparatiste québécois. Hein, c'était l'opposition officielle au Canada. Mais il n'y a qu'au Canada que l'on puisse voir une chose pareille. Et les Canadiens ont vu ça comme une expression de la démocratie et ont accepté la chose, c'est-à-dire dans les règles, quoi. Donc, jamais, par exemple, j'ai traversé ce pays, je veux dire, mais d'un océan à l'autre et à l'autre, parce que nous sommes baignés par trois océans, jusque dans l'Arctique. J'ai vécu avec des communautés arctiques. Et le gouverneur général doit faire cela, doit aller à la rencontre des Canadiens partout où ils sont et être à l'écoute, parce que il lui revient de conseiller le Premier ministre. Il lui revient aussi de l'alerter de certaines réalités. Donc, il est très, très proche des citoyens. Et jamais je n'ai senti au Canada une espèce de regard étrange du fait que je sois francophone, du fait que... Et partout, j'ai pris la parole en français, même quand dans la salle, on me disait, vous savez, il n'y aura pas de francophone dans la salle. Mais je le faisais quand même, parce qu'il fallait faire entendre cette langue. Et les gens y prenaient plaisir. Et ce que les anglophones découvraient, c'est qu'au fait, alors même qu'après, je reprenais la parole en anglais, et je ne faisais pas une traduction exacte de ce que j'avais dit, mais je partageais avec eux l'idée. Ils se rendaient compte qu'ils avaient déjà compris. Parce qu'entre nos deux langues, il y a tant de mots qui sont exactement les mêmes et qui sont de même racine que c'est extraordinaire de vivre cette grande parenté. Je vous dirais qu'il y a un souci constant de cohésion sociale au Canada, mais qui est porté, je dirais, par chaque citoyen. Ce n'est pas que l'affaire des États. Ce n'est pas que l'affaire de l'État, des gouvernements provinciaux, fédéraux ou municipaux. C'est l'affaire de chacun. Et de cela, chaque Canadien est très conscient. Il sait que ce rêve-là, dans ce pays de réinvention, ce pays moderne, ce pays jeune aussi, si l'on considère cet apport millénaire des premiers peuples du Canada, bon, c'est un pays quand même qui... Il faut aussi que l'on fasse peser ce poids-là dans l'histoire. Mais je dirais que c'est un pays de grande modernité, parce qu'il y a ce sens du citoyen toujours agissant.
Et donc, d'éviter les conflits, justement, sur ce qu'on appelle les résurgences mémorielles ou des choses comme ça, parce que ce sont des blessures, vous l'avez dit vous-même, ce sont des blessures, ces blessures de l'histoire. Ce sont des blessures qui peuvent se rouvrir à l'occasion. J'ai souvent une expression, en faisant ces émissions depuis longtemps, quand on met l'histoire par la porte, elle revient souvent par la fenêtre, sans qu'on s'en aperçoive. Vous vous dites, par exemple, arrière, petite fille d'esclaves. En France, quand au milieu des années 90, cette question des descendants d'esclaves est revenue dans le discours public, autour en particulier des travaux et des demandes de Christiane Taubira, il y a eu dans la société française des gens qui se sont dit « Mais attendez, 1848, C'était il y a un siècle et demi. On n'est pas descendant d'esclaves. Et donc, ces questions des divers régimes, pourrait-on dire, de rapport au passé, de rapport à la mémoire et de rapport à l'histoire, peuvent créer des fractures à l'intérieur d'une même société.
Cette appréhension de fracture, il faut la dépasser. Il faut la surmonter. Parce que je pense que l'aventure commence dès lors que nous acceptons de confronter l'histoire ensemble et de se dire, voilà d'où nous venons. Voilà ce qui s'est vécu, voilà ce qui s'est passé. Et nous voici ensemble aujourd'hui, avec la responsabilité d'avancer ensemble. Mais nous ne pourrons pas nommer les problèmes du moment d'aujourd'hui si nous n'avons pas bien en tête ce qui s'est passé avant.
Donc, il y a
et qui
bien...
peut être aussi déterminant.
Oui, c'est ça. Il y a bien tout de même des racines historiques à des événements qui nous sont contemporains et qui parfois font mal à nos sociétés.
C'est-à-dire que, par exemple, dans le désarroi que nous connaissons aujourd'hui, n'est-ce pas ? Nous sommes dans un monde vraiment bousculé,
fracturé,
où ces violences insensées et cette terreur nous talonnent tous les jours. Moi, je sais, secrétaire général de la francophonie, je peux vous dire combien tout l'espace francophone est heurté par ce péril terrible, par le terrorisme. Il est bon, je pense, de revenir sur ce que l'on a accompli. Il est bon de revenir sur ces valeurs fondatrices qui sont les nôtres et de se dire que c'est par celles-là aussi que nous vaincrons. Cela est essentiel. Donc, vous voyez, quand j'ai eu à dire...
Un certain optimisme qu'on sent chez vous, qu'on ne sentirait pas forcément chez nos dirigeants politiques. On sent bien qu'il y a chez nous plutôt une tendance à ressasser, à se dire que tout compte fait, l'avenir est plutôt sombre et que...
Il faut sortir de cette morosité.
Mais comment ?
Premièrement, elle est contre-productive. Ce qu'il faut se dire, c'est réaliser les forces qui sont les nôtres. Vous savez, ma fille a 16 ans. Et à 16 ans, l'autre jour, elle me dit la chose suivante. Parce que je discutais avec elle de la nécessité de mobiliser la jeunesse et de faire en sorte que l'on fasse entendre les voix des jeunes et leur attachement à ces valeurs si fondamentales, si essentielles, ces valeurs universelles que nous avons en partage. Parce qu'ils font... Il bouscule toutes les règles, c'est-à-dire qu'il défie distance, temps. Ils sont maintenant dans ces réseaux qui font qu'ils se rejoignent, peu importe la distance et où qu'ils soient. Alors ma fille me disait, écoute maman, à ceux qui pratiquent et qui prêchent la destruction, la haine de l'autre, la terreur, il faut faire comprendre une chose, c'est que nous sommes beaucoup plus nombreux à vouloir autrement. Un autre monde.
En fait,
nous sommes des centaines de millions, nous sommes des milliards même à croire à autre chose que cette destruction, que cette haine de l'autre. Et ça, il faut le faire voir, il faut le faire entendre, il faut le faire comprendre. Vous voyez, c'est une enfant de 16 ans qui dit ça.
Oui, vous...
Alors, il faut aller vers cette force dans notre jeunesse aussi et qui participe des solutions face à ces moments, je dirais, absolument déroutants que nous sommes en train de vivre.
Et c'est-à-dire que c'est une sorte de traduction de « We shall overcome », donc on peut dépasser. Voilà. Et ce moment des droits civiques, par exemple, qui a été si important, je crois qu'en tant que gouverneur du Canada, vous avez... accueilli pour son premier voyage quelqu'un qui était important pour l'histoire des États-Unis, à savoir Barack Obama. Est-ce qu'il y avait là quelque chose d'important pour vous, presque d'historique dans cette rencontre de la gouverneure générale du Canada que vous étiez et du président des États-Unis qu'il était ?
Alors, ce qui s'est passé lors de la première élection de Barack Obama, nous avons vu d'abord au Canada même quantité de jeunes qui ne votaient pas au Canada.
C'était en 2008.
Ouais. Et qui ont traversé la frontière pour aller faire campagne avec Barack Obama. Pourquoi ? Parce qu'il y avait cet optimisme. Ce « yes, we can », c'est possible, tout est possible, a inspiré incroyablement, a, je dirais, déclenché des envies de bousculer, de faire, d'agir et de se dire « oui, tout est possible ». Alors, la tradition veut effectivement qu'un président américain, dès son élection, vienne d'abord au Canada lors de sa première sortie officielle à l'étranger. Et je me dis, je vois ce dont l'homme est porteur, je vois la force, je vois ce qu'il a réussi à mobiliser. Incroyable, on n'avait jamais vu ça. Je vous assure, jusque dans l'Arctique, des enfants me disaient, « Tu connais Barack Obama ? » Do you know him? Incroyable. J'arrivais en Afrique. Même chose, Barack Obama. Alors, j'attends cet homme que je vais accueillir. Il est le président des États-Unis. Et je me dis, et si c'était uniquement un excellent communicateur? Je ne sais pas vraiment ce qu'il y a derrière. Je connais un peu de son histoire, mais quand même. J'attends d'avoir vraiment la juste impression. Est-ce que c'est un homme d'écoute? Qu'y a-t-il chez cet homme? Et je le vois descendre les marches de...
Air Force One.
Air Force One. Et tout de suite, il y a ce sourire extraordinaire. Et la première chose que nous nous disons, c'est « Mais qui l'eût cru ?» Que le commandant en chef du Canada, la commandante en chef, en l'occurrence une femme, que le commandant en chef des États-Unis se rencontreraient en ce jour et seraient tous les deux de descendance africaine. Qui l'eût cru, mon Dieu ?
Et
il dit « Let us rejoice !» Il faut vraiment se réjouir de ça. Ouais. Voilà, il y a de ces moments. Et c'était en plein mois de février. Et dans les Amériques, le mois de février est important.
C'est Black History Month.
Voilà, c'est le mois de l'histoire des Noirs. C'est très emblématique. Mémoire, se souvenir, voir le chemin parcouru, ce que nous avons accompli, d'où nous venons, et avec ça avancer.
Ce qui est assez extraordinaire en vous écoutant, Michael Jean, c'est qu'on sent que vous remontez le fil de l'histoire, et que ce fil de l'histoire, maintenant que vous êtes secrétaire général de la francophonie, vous conduit dans le principal continent francophone du monde, à savoir l'Afrique, et que vous continuez à retisser une nouvelle histoire,
oui,
avec ces nouvelles fonctions. Vous pouvez nous dire un mot là-dessus avant que nous concluions?
Je dirais que la francophonie est un grand idéal. Un idéal qui est né justement de la nécessité de repenser nos liens, nos rapports,
post-coloniaux,
nos regards les uns sur les autres, notre relation. Il y a eu ce génie de se dire, et c'est Léopold Sédar Senghor qui dessine cet espace et qui dit, et si on dessinait voilà, un espace à l'intérieur duquel nous pourrions justement nous réinventer, repenser nos rapports les uns aux autres, notre regard les uns sur les autres, et faire ensemble, au nom d'un humanisme intégral qu'il nous faut tisser partout dans le monde. Et ça, c'est extraordinaire.
Mais vous savez bien que responsables de mouvements intellectuels dans le monde africain disent « mais la francophonie, c'est le fauné de la puissance coloniale qui continue encore à tisser ses liens. Il y a toujours cette idée-là qui est restée, même malgré le passage comme prédécesseur d'Abdou Diouf, même tous ceux qui vous ont précédé, d'une certaine façon, Michael Jean.
Je dirais que nous n'en sommes plus là. Nous en sommes, je dirais, à une volonté de faire, partant de valeurs fondamentales, de solidarité, de coopération. Faire corps, ensemble. Nous pouvons témoigner dans la francophonie. Nous sommes 80 États et gouvernements sur les 5 continents. Nous pouvons témoigner de l'état du monde, de la condition humaine. Et nous avons aussi une vision des choses et nous avons aussi des solutions que nous pouvons partager avec le reste du monde. Partant de tous nos traits de civilisation, de tout ce que nous accomplissons, de toutes nos expériences que nous versons dans cet espace et qui nous permettent d'avancer ensemble et d'agir. Et c'est ça qui est formidable. Et une chose qui est extraordinaire, vous savez, au moment où j'arrive vers la francophonie, les gens disent « mais elle n'est pas africaine ». Il y a une règle non écrite qui voudrait que ce soit toujours un Africain à la tête de cette organisation.
Et on vous le reproche, effectivement.
Et ce sont des Africains eux-mêmes qui me disent « n'écoutez pas ces bruits, parce qu'ils me viennent d'où, surtout d'Europe. » Et qui me disent, n'écoutez pas ces bruits, vous savez ce que vous représentez? Vous représentez cette synthèse qui est si essentielle. Et dès lors que l'on vous dira, vous n'êtes pas africaine, ce sera un déni de l'histoire. Parce que vous êtes de ces Amériques que les Africains ont aidé aussi à construire, par leur sang, par leur sueur. Vous êtes de cette africanité globale. Je me dis, africanité globale. Oui, vous êtes de cette africanité globale que nous revendiquons aussi. Et qui, par les faits de l'histoire et les circonstances, c'est transposé jusqu'au-delà des mers, des océans et jusque dans les Amériques. Et ça, il ne faut pas l'oublier. C'est formidable quand même. C'est vraiment formidable. Moi, je trouve qu'il y a là, dans cet idéal, dans cet espace de la francophonie, tous les ingrédients, je pense, nécessaires pour penser le monde. Vous savez, un espace où, et je m'y retrouve bien comme Canadienne, et aussi comme Haïtienne, où on se dit, la diversité, ce n'est pas un problème, c'est une richesse. C'est riche de possibilités. Parce que dans la diversité, il y a toutes les perspectives. Il ne faut pas s'en priver. Autrement, on se retrouve dans un déficit d'idées, de perspectives et de possibilités. Au contraire, c'est extraordinaire.
Vous voyez bien qu'en partie, la France, aujourd'hui, ne dit pas ça. Et qu'en partie, la France se dit que cette richesse de diversité, c'est un danger. Donc, il y a des
tensions. Eh bien, moi, je serai là pour faire entendre le contraire. Je serai là pour dire au contraire. Le quant à soi, le entre nous seulement, cela crée un déficit. Ce qu'il faut construire, c'est vraiment une société inclusive, où l'on reconnaît l'apport de l'autre, où on n'a pas peur de l'altérité. Et la France est aussi, je dirais, un creuset de tout cela. Je me suis toujours étonnée de voir des Français venir vers moi et me dire « Ah oui, mais le Canada est cette terre de diversité et tout, comme si ça n'existait pas en France. » Mais elle est là tous les jours, la diversité. Elle est là, elle est présente, elle est un fait d'histoire. La rencontre est là tous les jours. Il faut uniquement savoir, je dirais, en faire une chance, une très grande chance.
Merci, Michaël Jean, pour ce plaidoyer pour un tout monde, s'il fallait citer un autre écrivain caribéen, Édouard Glissant, qui a non seulement enseigné chez nous, en France, aussi bien d'ailleurs dans les Antilles qu'ici en métropole, mais également enseigné à New York ou encore dans les universités canadiennes. Merci encore, Michaël Jean, de nous avoir accepté notre invitation ici à Versailles pour cette nouvelle rencontre du Jeu de Paume à Versailles, pour évoquer justement la multiplicité des influences historiques qui vous ont fait telle que vous êtes aujourd'hui secrétaire général de la francophonie. Merci encore.
Merci.
Une émission préparée, comme d'habitude, par Aurélie Marcet. Remerciements à Virginie Noël du service de presse de France Culture, mais également à toute l'équipe du Château de Versailles, Catherine Pégard, Violaine Solari, Ariane Delestrange et de tous ceux qui participent à cette émission très régulièrement. L'équipe technique était composée de Christophe Michoud, de Michel Gatchik, d'Alexandre Jams, de Jean-Michel Després et de Guillaume Rialan. La réalisation était signée Renaud Dalmar. Vous pouvez écouter ou réécouter cette émission sur le site de France Culture, mais également voir quelques extraits vidéo de cet entretien sur notre site à la page de la Fabrique de l'Histoire. Tout cela pendant 1000 jours et puis également la télécharger cette émission sur le site internet de France Culture. La semaine prochaine, nous parlerons d'histoire urbaine. Nous recevrons en deuxième partie de l'émission de lundi Paul-André Rosenthal pour un livre qu'il vient de publier. En première partie, un livre d'actualité aussi, et nous parlerons encore de Révolution française avec Jean-Clément Martin et son Robespierre.